Panorama économique.
Je vous souhaite la bienvenue à cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Sur votre radio, en voici les grandes articulations. Les prix des produits pétroliers ont été revus à la hausse, aussi bien à Kinshasa que sur le reste du pays. 50 francs congolais se sont ajoutés sur le prix du litre de tous les produits à la pompe. La corporation pétrolière justifie cette hausse par le fait que les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la structure des prix ont changé dans le sens de la hausse depuis le mois de février. Des explications dans cette émission. La flambée des prix du prix du ciment gris, décriée par l'Association des consommateurs du Congo central, de 5500 francs congolais, le sac de 50 kg de ciment se vend aujourd'hui à 12 500 francs congolais à Matadi et 17 500 à Kinshasa. Les consommateurs du Congo central demandent au ministre de revoir tout simplement sa décision interdisant les importations du ciment gris. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, nous parlons de l'opération de recouvrement forcé de la Direction générale des recettes du Maniema. Il s'agit de recouvrer de force la vignette auprès de taxis moto. Voilà tout pour les titres. Messieurs, dames, encore une fois, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique hebdomadaire de Radio Okapi. Je suis Daniel Stampizoni devant le micro et à la technique, André Mongou.
Panorama économique, le dossier.
Bonjour, ouvrons Panorama économique par ces cris de cœur, les cris de détresse des consommateurs du ciment gris de la province du Congo central. Ils demandent au ministre de l'économie de revoir sa mesure interdisant les importations de ce produit stratégique qu'est le ciment. Cette décision a provoqué une spéculation qui est encore loin de se calmer. Le sac de ciment à Matadi est passé de 5 500 francs congolais à 12 500 francs. C'est ce que nous dit Guy Roger Pala dans ce reportage.
Contrairement à la situation d'il y a un mois, le ciment gris est très visible dans les entrepôts de la ville de Matadi et ses environs. La rareté a laissé place à l'abondance sur le marché. Il n'y a que le ciment gris importé qui est perceptible. Le ciment produit localement est introuvable à Matadi. Malgré cette abondance, les prix sont toujours très élevés aux yeux du consommateur. 11 500 voire 12 500 francs congolais, des sacs de 50 kg dans la ville de Matadi. D'après un revendeur, au quartier Quintanda, les ventes du ciment ont fortement baissé à cause du prix. Les clients préfèrent attendre encore une éventuelle baisse de ce produit. Dans l'entretemps, certains travaux de construction ont ralenti et les gens attendent toujours une embellie dans ce secteur de construction. Aujourd'hui, plusieurs chantiers en construction sont aux arrêts à cause de la mesure gouvernementale, selon Condé Zola, un responsable de l'Association des consommateurs du Congo central. Mesure que cette structure de consommateurs demande la levée pure et simple. Notez qu'une correspondance du ministre de l'économie datée du 30 juillet 2016 établit les noms des entreprises autorisées à importer le ciment gris de l'Angola, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite et de l'Ouganda. Sachez pour finir qu'avant cette décision du gouvernement, le sac de ciment gris importé était vendu à 5 500 francs congolais dans la ville portuaire de Matadi. Matadi, Guy Roger Nyampala, École d'économie.
À Kinshasa, le même sac de 50 kg est vendu à 17 500 francs alors qu'avant cette décision, il se vendait à 9 800 voire 10 000 francs congolais. Dans un communiqué du ministre de l'économie daté du 19 août, le ministre Modeste Bahati a dit son regret de voir que les opérateurs économiques de ce secteur se livrent à la rétention des stocks et à la spéculation du prix de ce produit fortement demandé sur le marché. Il a rappelé que le prix concerté avec le opérateur du secteur reste celui fixé à l'équivalent en francs congolais de 12,5 dollars américains. Une commission mixte au ministère de l'économie et la FEC devait descendre sur terrain pour sévir le contrevenant à cette disposition. Avait-elle eu lieu cette mission? En tout cas, tous nos efforts pour en avoir quelques explications sont restés vains jusqu'au moment où nous vous passons cette émission. Un autre sujet intéressant de la semaine, vous l'avez constaté, comme nous, 50 francs congolais se sont ajoutés sur les prix du litre de produits pétroliers dans les stations-service. Ainsi, à Kinshasa par exemple, le prix du litre d'essence est passé de 1 440 francs congolais à 1 490, celui du gazoil est passé de 1430 à 1480 francs congolais. Votre magazine vous propose de réécouter l'interview que nous avait accordée Emery Bopé. Il est le vice-président du groupement des pétroliers privés du Congo. C'était mardi dans Écho d'économie. Suivez.
Il est vrai que c'est depuis le mois de février qu'on avait publié la dernière structure, donc la structure du 4 février 2016. Depuis cette date-là jusqu'hier, la structure est restée inchangée, malgré certains paramètres qui sont des paramètres toujours pris en compte pour calculer le prix à la pompe. Vous vous rendez compte que si nous ne prenons rien que les taux d'échange, il est parti de 93, j'ai bonne mémoire.
920-930.
Voilà, il est à 939.75. Alors je disais que le taux d'échange est parti de 939.75 et aujourd'hui, quand vous regardez les taux, on est presque à 1100. Et c'est une variation qui dépasse la normale, parce que la normale pour nous c'est 5%. Alors, quand nous prenons ces paramètres dont les taux d'échange dont je venais de parler, nous prenons le volume. Vous avez vu, beaucoup de gens n'achetaient plus parce que vous achetez pour vendre à perte pendant tous ces temps. Le volume n'a pas tellement évolué. Donc, les attentes sur le plan fiscalité, sur un volume X, on les a réparties sur un volume qui était minoré, mais qui prend beaucoup plus de charges. Et quand nous prenons aussi les PMF, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le prix d'acquisition des produits a évolué dans le sens de la hausse légèrement. Alors, ce qui fait que les pétroliers sont restés pendant une période en train de vendre, parce qu'au fait, c'est un partenariat. Le gouvernement, c'est un partenaire de la corporation ou de la profession pétrolière. Alors, nous nous sommes réunis, je crois, 2 ou 3 fois, et nous avons adopté, je crois, au mois de juillet, le 24, une structure qui devait être appliquée. Pour cette structure n'était pas appliquée. Nous nous sommes réunis encore, je crois, au mois de août, si ma mémoire est bonne, et il y a des propositions qui ont été faites.
C'est comme ça que l'augmentation de 50 francs...
L'augmentation, c'est-à-dire que quand on regarde en réalité, au compte tenu de ces paramètres qui ont changé, on a réajusté.
Vous ne parlez pas d'augmentation, mais vous parlez de réajustement de prix.
Oui, on a réajusté. Donc,
à la hausse.
Pour corriger, de sorte qu'il y ait un équilibre par rapport au renouvellement des stocks. Parce qu'en fait, le grand problème ici, c'est de ne pas avoir de pénurie.
Oui, monsieur Emery, mais comment la corporation pétrolière en RDC répond à ceux qui pensent que, sur le plan international, là où vous importez ces produits, lorsque le baril a baissé jusqu'à moins de 40 dollars le baril, les prix sont restés les mêmes en RDC aujourd'hui. Bon, quand bien même il y a hausse, on est autour de 50 et de 48 à New York comme à Londres. C'est pendant ce temps-là que vous augmentez. Comment vous répondez à ces gens-là?
Oui, il faut que ces gens-là comprennent que le pays, le Congo, nous sommes aussi pays producteur. Nous exportons aussi. De la même manière qu'ils pensent que nous, les barils a baissé, en exportation, dans les attentes sur le plan budgétaire, sur ce que l'État attend de la manne pétrolière, nous avons aussi perdu. Parce que peut-être les jours là où on calculait ce budget, les barils, il était coté par exemple à 200 ou à 150, et au jour d'aujourd'hui, il a baissé jusqu'à
50.
Vous voyez que l'État aussi a perdu beaucoup d'argent.
Mais vous n'êtes
si
pas
nous
tous
mettons
de
la balance entre ce que les gens pensent réellement que nous essayons de les récupérer, de l'autre côté, ça n'a pas d'équilibre. Au contraire, l'État fait aussi des efforts, donc l'État doit avoir les moyens, l'État doit fonctionner, mais je ne pense pas que l'on puisse réfléchir en ces termes-là. Et par contre, je vais dire, chez nous, l'État prend aussi une bonne partie de ce que les consommateurs pouvaient apporter dans l'achat des carburants à la pompe. Il y a des droits des consommateurs. Il y a quand même quelque chose que l'État aussi prend de sorte à ce que le pouvoir d'achat que notre peuple a permette à ce qu'il s'approvisionne facilement dans le
pays. Et s'il vous demandait d'appliquer la vérité de prix, ça coûterait combien le litre de l'essence, par exemple?
Non, je m'abstiens, puisque nous n'avons pas... Oui, c'est ce que nous voulons. On atteindra peut-être la vérité des prix, mais vous savez que les gouvernements. Gouverner, c'est prévoir. Je ne pense pas qu'en appliquant la vérité des prix, nous puissions le vendre à ces prix-là. Ça peut aller même un peu au-delà, mais ce n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, nous disons qu'on a harmonisé l'attitude des prix, on l'a adapté de sorte à ce qu'on n'ait pas de problème dans les renouvellements des stocks qui sont destinés à couvrir la consommation en RTC. Voilà.
Et puisque nous parlons des produits pétroliers, cette hausse a également été signalée à Kisangani dans la province de la Tchopo. Le prix d'un litre d'essence à la pompe est passé de 1100 à 1210 et celui du gazole de 1080 à 1200 francs congolais. Cette augmentation a été observée mardi dans différentes stations-service de la ville. Selon le responsable de ces stations, la nouvelle tarification a été communiquée par Kinshasa. Cependant, les revendeurs de produits pétroliers communément appelés Kadhafi ont continué à vendre le litre d'essence à 1100, voire même à 1000 francs congolais. Venons-en maintenant à ce bouclage entamé cette semaine par la Direction générale des recettes du Maniema. Elle procède au recouvrement forcé de la vignette. Le responsable de la DGRMA, Célestin Batangui, explique le sens de cette opération dans cet entretien avec Mathieu Ilunga Chamboui.
La régie travaille selon un calendrier fiscal. Il y a la période de paiement volontaire. Cette période prend au moins à peu près 6 mois. Donc jusqu'au mois de juin, nous avions laissé nos requérants de venir payer eux-mêmes parce que le système fiscal de la République démocratique du Congo est déclaratif. Alors, nous les laissons un temps pour qu'ils viennent déclarer et après, nous devons vérifier et chercher à savoir qui ont payé et qui n'ont pas payé. Et c'est l'opération que nous sommes en train de faire pour le moment. Et cela, ça concerne l'ensemble de toutes les taxes, les impôts que les assujettis doivent payer à la province.
On parle des vignettes.
Les vignettes, c'est un impôt. Nous avions commencé d'abord par la patente et les titres pour le petit commerce. Maintenant, le recouvrement sur les engins roulants. Cela veut dire la vignette pour l'exercice.
Est-ce qu'on peut avoir un peu l'idée sur le montant que vous faites payer?
Tous ceux qui ont payé pendant la période normale où il n'y avait pas de recouvrement forcé, ils ont payé un montant unique. Par exemple, pour une moto, à l'époque, c'est l'équivalent de 22$. Et maintenant, quand nous sommes dans la période de recouvrement forcé, il y a la pénalité qui vient. Donc, pour le moment, par exemple, pour une moto, le paiement, c'est 33$.
Pour la plupart des montards qui payent maintenant cette taxe avec pénalité, c'est la DGRMA qui les a fait décourager lors du recouvrement volontaire du mois de mars et avril. Ils se rendaient au guichet, disent-ils, pour payer la vignette, mais la preuve de paiement leur remise n'était pas valide. Maintenant que les imprimés de valeur valides sont disponibles, ils demandent aux autorités de leur accorder un temps de grâce, mais l'administration de la DGRMA ne veut pas entendre les choses de cette oreille.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Autre information de la semaine en bref, le solde déficitaire des opérations financières du Trésor public congolais continue à se creuser à la fin de la semaine dernière et tel que repris dans le communiqué de la Troïka stratégique de lundi dernier, le déficit est de près de 300 milliards de francs congolais. Le déficit mensuel au 19 août, a annoncé la Troïka stratégique, était de 95 milliards 249 millions de francs congolais. Cette situation est consécutive à des recettes de 154 milliards 928 millions de francs congolais et des dépenses de 260 milliards 177 millions de francs congolais. La Troïka justifie ce niveau de déficit au lancement de la paye du mois d'août. En cumul annuel, le Trésor public affiche un déficit de 297 milliards 167 millions de francs congolais. La Société nationale d'électricité envisage de changer le système de commercialisation de son courant électrique. Elle veut basculer dans un avenir proche vers le mode de prépaiement sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. La SNEL a fait cette annonce mardi au cours de la journée consacrée à l'énergie. C'était à la foire internationale international de Kinshasa. Un nouvel administrateur de la RDC auprès de la Banque africaine du développement. Il s'appelle Obam Long, de nationalité camerounaise, élu lors des dernières assemblées annuelles de la BAD. Obam Long est en visite de consultation en RDC et sa visite se termine d'ailleurs aujourd'hui 27 août. Elle a commencé le 21. Il vient prendre langue avec les autorités congolaises, s'enquérir de la situation du pays dont il aura désormais la charge de parler au conseil d'administration de la BAD.
Panorama économique, matière première.
Matière première, nous allons évoquer à présent avec M. Théodore Mbia Kalala. Nous allons parler de cette fameuse pièce de diamant de 822 carats qui serait spoliée par l'État congolais. Selon un communiqué des ONG de défense des droits de l'homme du 20 août dont la copie nous est parvenue, le collectif de ces ONG demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour que son propriétaire soit remis dans ses droits. Et le propriétaire de ce diamant de 822 carats est avec nous dans ce studio. C'est lui notre invité dans Panorama économique sur Radio Okapi. Il s'appelle M. Théodore Mbia Kalala. M. Théodore, bonjour et bienvenue au studio de Radio Okapi.
Bonjour, monsieur le journaliste Daniel.
Voilà, pour commencer, monsieur Théodore, un diamant de 822 carats, est-ce que c'est une mythe ou c'est vraiment une réalité? Est-ce qu'il a existé, ce diamant de 822 carats?
Merci beaucoup pour la question. Ce diamant a réellement existé, je peux vous le rassurer. Parce que, d'abord, j'ai supporté, j'ai financé les travaux de creusage de diamant, et de ce travail est sorti un gros diamant.
Alors je veux recadrer un peu, parce que en RDC maintenant on parle du processus de traçabilité des minerais.
Ouais.
Puisque vous avez dit vous avez financé les travaux de creusage, est-ce qu'on peut savoir c'était dans quelle mine, c'était dans quel puits, dans quel territoire, est-ce qu'on peut retracer ce diamant?
Oui, c'est un diamant qui a été le puits a été creusé à Benetiswaka, dans les mines de Fumbukabwebwe, dans la province du Kasaï oriental.
Donc c'est vérifiable l'origine de ce diamant.
Oui,
c'est vous qui avez financé les travaux et les diamants étaient extraits.
Les creuseurs du puits voisin a pu mettre la main sur la pierre dans les graviers et il s'est enfoui avec. Il est allé présenter ça chez des mafieux que nous appellerons même des recelers et trafiquants, qui ont pris aussi cette pierre et qui ont préféré la faire sortir frauduleusement du pays. Et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, à cause du processus de Kimberley, la douane belge a mis la main sur la pierre et l'a saisie et a informé l'État congolais. Et l'État congolais, à son tour, a envoyé une commission qui a pu ramener cette pierre du pays.
On peut situer ces faits dans le temps. C'était en quelle année?
Oui, c'était en 2005.
Et aujourd'hui, nous sommes en 2016.
Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 2016.
Le diamant est arrêté par la douane belge et informé, l'État belge va informer l'État congolais de cette saisie. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps?
L'État congolais a envoyé une commission qui a ramené les diamants au pays. Et nous, quand nous avions appris la chose, on s'est retrouvés, on a portait plainte au parquet, et le parquet qui a fait aussi son travail, mais qui s'est buté à beaucoup de difficultés, et on a vu qu'il s'est bloqué, et à tout moment il était tenté de s'éloigner du dossier.
Parce qu'il s'agissait d'une grosse pierre.
Bon, il s'agissait d'une grosse pierre, et aussi il y a d'autres choses qu'on ne sait pas bien clarifier de ce qui se tournait autour de ça. Mais nous avons trouvé qu'avec ce blocage, on a pu, pour débloquer, on a pu voir le chef de l'État. Et dans ces démarches-là, le chef de l'État nous a bien reçus le 24 juillet 2006, dans sa résidence de Mbujimayi. Et de là, il nous a fait une promesse ferme d'une issue heureuse. Il a reconnu les dossiers, il a dit qu'il va terminer ça après les élections.
Et depuis 2006.
Et depuis lors, nous avons fait plusieurs démarches et il y avait un silence plat. Et puis, on a fait plusieurs démarches. Après, en 2009, le chef de l'État m'appellera, me demandera de venir ici par le canal de son ambassadeur itinérant. Et de venir ici à Kinshasa pour que la chose soit terminée. Et au même moment.
Vous êtes à Kinshasa depuis 2009 pour ce dossier, en 2016.
Oui. Et puis, à partir de là, il a donné aussi l'ordre à son directeur de cabinet pour que ce dernier puisse coopérer étroitement avec le parquet général de la République afin de terminer la chose. Mais on a vu que les silences prenaient aussi place.
Jusqu'aujourd'hui.
Non, ça c'est 2009. Alors, 2011, après aussi plusieurs contacts, le chef de l'État va envoyer le même ambassadeur en Boujimaï pour que les responsables des confessions religieuses avec lesquels il m'avait reçu puissent confirmer si réellement la pierre m'appartenait. Alors, il voyait aussi la valeur de la pierre parce que vous pouvez vous imaginer plus de 800 carats d'une pierre tout à fait blanche. C'est une affaire de
On va venir à son estimation. Continuer pour l'histoire, ouais.
Ouais. Bon, maintenant.
Il envoie son émissaire pour vraiment se rassurer que le diamant appartient à M. Théodore.
Ouais. Et celui-là va ramener un mémo des responsables de confession religieuse qui rassure que c'est le propriétaire. Alors, il répondra. Bon, cette fois-ci, on va terminer. Et ça, c'est 2011. On a vu encore un silence. Après ce silence-là, j'ai fait grève de la faim pour manifester ou bien rappeler. Alors maintenant, après cette grève, le silence était toujours là parce que on m'avait demandé, conseillé par mon médecin, de ne pas continuer, sinon, parce que j'avais fait déjà 21 jours. Alors, et maintenant, qu'est-ce que on a vu aussi un silence, et puis de 2012 que j'ai fait la grève
de faim.
Oui. Maintenant, 2013, on voit les parquets qui classent les dossiers sans suite. On se demande.
Mais... Donc, c'est que le parquet est toujours buté de difficultés pour traiter ce dossier.
Oui, oui. Une difficulté énorme.
Il y a beaucoup d'interférences dans le dossier.
Oui, beaucoup d'interférences parce que, premièrement, il a voulu se débarrasser du dossier en le retournant en Boujimaï. On se demande, un dossier qui est déjà au parquet général de la République, on le retourne encore à l'échelle inférieure. Ou bien. Alors, on a trouvé que c'était un peu. Et c'est ça qui nous avait poussé de voir les chefs de l'État. Lui, en tant que magistrat suprême, pour qu'il prenne des dispositions. Et c'est ce qu'il avait fait. Et nous comptons toujours sur cette disposition-là et cette promesse qu'il nous avait fait ces jours-là, d'une issue heureuse et en reconnaissant
Donc, si nous comprenons bien, de 2005, alors si je me rappelle bien, en 2005, c'était le gouvernement 1+4.
1+4, oui, c'était à l'époque du gouvernement 1+4. Le chef de l'État était lui-même chef du gouvernement et chef de l'État.
Voilà. De 2005, aujourd'hui nous sommes 2011, ce diamant, malgré toutes les démarches que vous avez menées,
2016.
Toutes les pressions que vous avez menées en 2016, ce diamant de plus de 800 carats ne vous est toujours pas remis.
Non.
Mais vous trouvez, est-ce que vous continuez à croire que de 2005 à aujourd'hui 2016, 11 ans je crois, 15 ans
11 ans.
11 ans, 11 ans passés. Est-ce que vous croyez que ce diamant il est toujours là où il a été déjà vendu et qu'on est en train de vous tourner autour du pot et puis finalement vous allez perdre en temps et puis vous allez vous fatiguer? Est-ce que vous croyez que ce diamant il existe toujours?
Oui, je crois fermement que le diamant existe parce que le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Arrivé au rang de chef de l'État, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, le chef de l'État a fait une promesse parce que nous lui avons donné ces dossiers-là 3 semaines avant qu'il nous reçoive. Il a eu le temps de
prendre connaissance.
De prendre connaissance et lui-même nous a déclaré qu'il connaissait ça et il va trouver la solution après les élections. Et nous devons lui faire confiance et nous croyons. Bon, peut-être que l'entourage, les freins ou les déconseils d'aller rapidement, c'est pourquoi il est retard. Mais je me rappelle que quand il était une fois au Katanga, il a déclaré que il ne parle que si le silence ne résout pas les problèmes devant des notables. Et ici, son silence n'a rien résolu. Je pense que c'est le moment pour qu'il puisse donner l'ordre là où les gamins sont gardés pour qu'on puisse me les restituer.
Bon, avant, essayez un peu d'estimer, de connaître la valeur marchande de ces diamants de plus de 800 carats.
Ouais.
Comment, sur le marché, il peut représenter combien?
Un tel diamant, c'est un diamant hors catalogue, et de par sa forme. Et c'est un diamant d'une meilleure forme, et puis, meilleure couleur. C'est un diamant qui peut coûter entre 1 million et 1 500 par carat, multiplié maintenant par 822 carats.
Vous pouvez vous imaginer. C'est une histoire de
milliards. Ouais.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que M. Théodore Mbia Kalala demande au chef de l'État? Parce que le collectif de ONG qui vous soutiennent dans cette démarche l'ont bien dit, ils demandent au chef de l'État de s'impliquer personnellement. Ça, c'est le collectif qui le dit. Mais M. Kalala, qui est le propriétaire, qui a financé le travail d'extraction de ces diamants, qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui? Mais c'est quand même beaucoup d'argent. On vous rendrait cette pierre, vous la vendiez, et qu'est-ce que vous en feriez, vous?
D'abord, je demande que le chef de l'État puisse honorer sa promesse en tant que chef devant ses citoyens. Et quand il a fait une telle promesse, ça l'engage. C'est une dette vis-à-vis de nous. Vous comprenez que quand il était à Kananga, il a déclaré que je viens payer la dette. Et quelle est la dette? Il a dit que j'avais promis le courant ou le shit d'établir shit katende ou de construire. Alors vous comprenez que il a appelé ça une dette. La promesse est une dette. Il nous a fait cette promesse et après vérification et il a conclu bon, s'il les résout avec cet argent, nous allons mettre en place des sociétés ou des entreprises qui peuvent soulager le peuple congolais. Et l'économie sera, une fois de plus, notre pays va profiter dans des taxes, des impôts, tout ça, et notre économie peut aller de l'avant. Et
donc, vous comprenez. Votre souci, c'est de recouvrir, de retrouver cette pierre.
Ouais.
Qu'on la vendrait,
oui.
Et que par la fiscalité, l'État congolais tirerait sa part,
oui.
Et vous, la partie qui vous reviendrait, oui. Vous l'investirez, et puis le peuple congolais pourrait en profiter.
Certainement.
Comment? Ok. Alors, monsieur Théodore, à moins que vous ayez un mot de la fin, je pense que nous avons dit pour l'essentiel de ce qui concerne ce diamant de plus de 800 carats, ouais. Que vous avez sorti de votre puits depuis 2005, et qui vous a été, comme vous l'avez dit, volé.
C'est comme mot de la fin, c'est que j'ai un cri de détresse, un cri de cœur, que je lance premièrement à vous les journalistes. Parce que vous les journalistes, vous êtes en mesure d'appeler n'importe qui, que ce soit les députés pour les sensibiliser. Que ce soit les gens des majorités ou de l'opposition, tout Congolais qui peut nous aider à arriver à la fin de ces dossiers, ça sera une bonne chose, sa contribution pour notre pays. Ça sera sa contribution pour notre pays. Donc, si on arrive à la fin, ça va nous profiter tous. C'est ça le modèle.
On vous dirait peut-être que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ce diamant a été sorti du sol congolais. L'État peut le prendre et vous, monsieur, allez vous faire voir. Vous ne pensez pas que ça peut arriver?
Je ne crois pas que ça peut arriver parce que nous sommes dans un état de droit. Et si nous le sommes réellement, on ne peut pas arracher comme ça, d'autant plus que ce travail dans l'exploitation artisanale qui est reconnue et c'est lui qui tire le résultat de... Il n'a qu'à en profiter et les devoirs de l'État, il doit reconnaître. Alors je ne vois pas de quelle manière ou de quel droit l'État va se compliquer lui-même. Lui qui doit protéger, lui qui doit faire que les choses aillent de l'avant, et il se met à... il met des bâtons dans les roues de ses compatriotes. Donc ce n'est pas normal.
Théodore Mbia Kalala, merci beaucoup de vous être confié à Radio Okapi et à cette émission Panorama Économique.
Okay.
Chers auditeurs de Radio Okapi, 822 carats de diamants, c'est beaucoup d'argent, plusieurs millions et des milliards même. Et son propriétaire, c'est celui que vous attendez là sur les ondes de Radio Okapi que vous venez d'entendre. Il s'appelle Théodore Mbia Kalala. Son diamant a été extrait à
Benetchiswaka, dans les mines de Fumbukabwebwe.
En 2005.
En 2005, dans la province du Kasaï Oriental.
Et aujourd'hui, il est en train de courir derrière cela depuis 11 ans. Espérons qu'un jour viendra.
Ça m'a appauvri et il y a plusieurs, même d'autres creuseurs en sont morts à cause de la pauvreté, de la souffrance, des maladies sans moyen de... Et il y a eu même des familles qui se sont séparées à cause de la pauvreté, des misères créées toujours autour de ces gens.
Espérons qu'un jour viendra où il y aura dénouement de cette situation. Merci beaucoup à vous d'être venu dans ce studio de Panorama Économique. Merci à vous, André Mongou, et à vous, chers auditeurs. Merci, je vous retrouve la semaine prochaine, déjà lundi, dans Écho d'économie. Très bonne suite de programmes sur Radio Okapi. Je suis Daniel Tambizoni. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.